Bonsoir. Depuis longtemps maintenant, il y a une rubrique sur Révélation Bible qui s'appelle Les Apocryphes. Alors je sais que dans les milieux chrétiens, on regarde les livres apocryphes avec beaucoup de méfiance. Et bon, c'est vrai que tout n'est pas inspiré, tout n'est pas bon. Mais je pense qu'il nous faut être un peu plus ouvert, un peu plus spirituel que la moyenne des ours, excusez-moi. Savez-vous déjà, le mot apocryphe ne signifie pas douteux. Le mot apocryphe ne signifie pas non inspiré. Le mot apocryphe signifie réellement qui a été tenu caché. Un livre apocryphe, c'est quelque chose qui était tenu caché. Pour quelle raison il a été tenu caché? C'est un petit peu difficile de le dire. C'est très souvent un peu de la politique religieuse, hein? Mais aussi, derrière tout cela, il y a le grand plan de Dieu. Et Dieu a voulu, par exemple, que les écrits de Hénoc, le septième depuis Adam, soient tenus cachés dans le temple pendant des siècles, des millénaires, parce que ce qu'il avait révélé à Hénoc, cet homme qui était intègre et qui finalement a été enlevé, il a disparu du milieu des siens, de la terre, il est parti dans le paradis avec son corps. Eh bien, ce qui lui a été dit, ce qu'il a écrit, concerne en particulier notre génération. Alors bien sûr, les érudits, une certaine élite, parmi les religieux juifs, ont toujours plus ou moins lu ces textes et se sont trouvés confrontés à toutes sortes de discussions parce que ce texte d'Hénoc parle beaucoup des anges et dans les milieux juifs, il y avait des entre guillemets, secte, des personnes qui ne croyaient pas dans l'existence des anges. Alors évidemment, ça crée des problèmes. Et puis en plus, ça ne les concernait pas vraiment. C'est une chose qui a été écrite surtout pour notre époque, pour notre temps, afin que nous voyons clair au sujet de ce qui nous attend, de ce que nous sommes, de ce que nous avons à faire. Et il y a d'autres écrits, j'ai là toute une collection de livres apocryphes, vous pouvez trouver ça très facilement dans toutes les bonnes librairies. Et si ça n'est pas dans votre bonne librairie, vous pouvez toujours les commander. Vous pouvez commander ça dans la série La Pléiade, elle est un peu chère, mais elle est excellente. Dites, voilà, votre libraire, je voudrais les écrits apocryphes dans... Et en particulier, les écrits intertestamentaires. Ce sont les écrits qui ont été trouvés en Israël, tout près de la mer Morte, des écrits qu'on appelle de Qumran. Ce soir, je voudrais vous parler d'un autre écrit, c'est l'évangile de Thomas. Alors évidemment, ça crée des problèmes parce que nous autres chrétiens, on a l'habitude de dire, voilà, on a quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et il n'y en a pas d'autres, point. Voilà, c'est ce qu'on nous dit dans les églises, on nous le répète, on nous le répète, et c'est vrai que ces quatre évangiles sont authentiques, ils sont magnifiques. Mais bien malin le théologien qui peut prouver, par exemple, que l'évangile de Matthieu a bel et bien été écrit par Matthieu. Celui de Marc, il y a trois fins de l'évangile de Marc, trois fins différentes. Bien malin celui qui peut dire lequel est le bon. En fait, voyez-vous, si quelque chose se trouve dans un évangile et qui contredit tout le reste de la Bible, alors ça n'est pas bon. Si quelque chose se trouve, par exemple, dans l'évangile de Marc, la fin d'un des évangiles de Marc qui existe, celui que nous avons le plus couramment dans nos Bibles, nous dit que d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris, que ceux qui croient en Dieu parleront d'autres langues, etc. Bon. Eh bien, si nous mettons en pratique ces choses-là, si nous obéissons à Jésus et que nous mettons nos mains sur les malades, nous pouvons constater que ce qui est écrit là dans cet évangile est authentique. Donc, nous pouvons le considérer comme vrai. Il y a beaucoup d'autres critères aussi, mais savez-vous, beaucoup de théologiens sont déjà des gens qui ne sont pas forcément nés de nouveau. Alors, il nous faut faire quelques recherches, il nous faut pas simplement bêler et répéter, répéter toujours ce que tout le monde répète et tout le monde dit. L'évangile de Thomas, par exemple, c'est un évangile qui ne contredit pas les autres évangiles. Il dit des choses, les choses d'une façon un peu différente. Mais par exemple, si vous prenez les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Eh bien, ils sont très différents, ces trois-là, de l'évangile de Jean. Ça ne fait pas d'eux des faux évangiles, et ça ne fait pas de l'évangile de Jean un faux évangile. Pourquoi l'évangile de Thomas est de côté? Pourquoi il n'a pas été mis avec les quatre? Bon, ben, il y en a beaucoup qui n'ont pas été mis avec les quatre. Beaucoup, 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 beaucoup. J'ai un faible pour l'évangile de Thomas parce que l'apôtre Paul le cite. Et comme il le cite, alors évidemment, c'est qu'il le connaissait. Et s'il le connaissait, eh bien, et qu'il le cite, eh bien, à mon avis, c'est qu'il lui prêtait quelque importance. L'évangile de Thomas est certainement l'évangile qui a été écrit en premier. Il faut savoir que Matthieu, Marc, Luc et Jean ont été écrits à partir de 80 après Jésus-Christ. L'apôtre parle d'un écrit, il cite un écrit, et c'est un écrit qu'il a trouvé dans l'évangile de Thomas, et il cite cela dans sa lettre aux Corinthiens, et nous savons que cette lettre aux Corinthiens a été écrite en l'an 55 après Jésus-Christ. Ça veut dire que l'évangile de Thomas a été écrit avant. C'est-à-dire que tout chrétien, toutes les personnes qui connaissaient Jésus-Christ, qui connaissaient, qui étaient dans l'Église, connaissaient cet écrit-là et le lisaient, le méditaient certainement. Bon, il y a eu un petit problème, un très gros problème, qui existe toujours d'ailleurs, c'est qu'il s'est glissé dans l'Église primitive des gens qui ne croyaient pas que Jésus-Christ était véritablement Dieu, qu'il était ressuscité, des gens qui disaient que la résurrection, d'autres disaient que la résurrection avait déjà eu lieu. Enfin bon, il y a eu ce qu'on appelle des gnostiques, des gens qui croyaient qu'on est sauvé par la connaissance, etc. Bon. L'évangile de Thomas était un évangile dont ils se servaient absolument et dont ils ont tordu beaucoup le sens. Et quand les pères de l'Église ont dû décider quels étaient les évangiles qu'on allait mettre dans le canon, c'est-à-dire dans les livres inspirés, les livres qu'on allait joindre à ce que nous appelons l'Ancien Testament, eh bien, ils ont rejeté l'évangile de Thomas parce que, politiquement, il n'était plus correct à cette époque-là, dans le sens que c'était l'évangile de tout le monde, et en particulier des gnostiques, alors que ces fameux gnostiques renier l'évangile de Jean, l'évangile de Matthieu, Marc et Luc, parce que ces évangiles-là apportaient beaucoup de connaissances au sujet de la résurrection, de la divinité de Jésus-Christ. Et ça les embêtait beaucoup, donc ils ne voulaient pas de ces quatre évangiles. Voilà, ça, c'est un peu en résumé le pourquoi nous n'avons pas l'évangile de Thomas ce soir. Simplement, je voudrais vous faire envie d'aller lire un peu les commentaires que j'ai faits dans le site Révélation Bible sur lequel vous êtes en ce moment, et je voudrais vous lire un peu à l'avance le Logion 69. Logion, ça signifie parole. L'évangile de Thomas, il n'y a pas d'histoire. On ne raconte pas Jésus a fait ci, Jésus a fait là, il est allé ici, il a fait cela, il a parlé avec un tel, il a mangé, il a bu, il a fait tel miracle. On ne parle pas de la croix, on ne parle pas de sa naissance, on ne parle pas de la résurrection, on ne parle de rien du tout. Tout ça, c'est simplement des choses. Jésus a dit et on nous dit ce que Jésus a dit. Jésus a dit et ça y est, on sait, voilà, c'est écrit, Jésus a dit tout. Alors, ce soir, je voudrais vous lire le Logion 69, afin de vous donner un peu envie d'aller étudier ces choses et de ne pas rester simplement bloqué. Maintenant, que vous croyez que cet évangile-là est inspiré ou non, ça ne vous enlèvera rien à votre salut. Ce n'est pas parce qu'on croit qu'il y a quatre évangiles, qu'on croit qu'il y en a cinq ou six ou dix, qu'on est sauvé ou pas sauvé. Quand l'apôtre dit que malheur à moi si j'annonce un nouvel évangile, il n'y a pas un autre évangile que celui que je vous enseigne. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. D'accord. Tant que la bonne nouvelle que je vous annonce ne contredit pas la bonne nouvelle que Jean annonce ou que Luc annonce, mon évangile n'est pas faux. C'est-à-dire la bonne nouvelle que je vous annonce n'est pas fausse. Ça n'est pas l'évangile selon Michel Janton, c'est simplement je vous donne la bonne nouvelle, c'est moi, Michel Janton, qui vous donne la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait, de ce qu'il est, etc. Donc je ne vous apporte pas un nouvel évangile. L'apôtre Paul parle de son évangile. Où est-il son évangile? Eh bien, quand il dit selon mon évangile, il veut dire selon la bonne nouvelle que j'annonce. Pour nous, le mot évangile, ça veut dire livre. Il faut arrêter avec cette histoire. Évangile veut dire bonne nouvelle. D'accord? Donc, on n'a pas à annoncer. Quelqu'un qui annoncerait une autre bonne nouvelle, une bonne nouvelle qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ vivant, mort, ressuscité, et un évangile qui n'annoncerait pas cela, qui n'annoncerait pas que Jésus-Christ est Dieu fait chair, alors cet évangile-là, il faut le rejeter. D'accord? Mais ça n'est pas le cas de l'évangile de Thomas. L'évangile de Thomas ne renie absolument pas que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est mort et ressuscité, que son sang était parfaitement divin, voilà. Simplement, c'est une il a mis ensemble beaucoup de paroles que Jésus a dites et les a mises par écrit. Et là, je voudrais vous lire ce soir le Logion 69 et le commentaire que j'en ai fait afin de vous donner envie d'aller voir un peu plus, parce que je sais que les chrétiens n'aiment pas tellement lire déjà. À la base, c'est à peine s'ils lisent leur Bible, alors c'est un peu difficile pour eux d'aller lire, n'est-ce pas? Sur Internet, quand un pasteur a écrit un commentaire au sujet de l'évangile de Thomas, ça leur passe largement au-dessus de la tête. Je vais vous donner un petit peu envie d'aller lire ces choses parce que c'est important pour votre vie spirituelle, je le crois de tout mon cœur. Donc voilà ce Logion 69. Jésus a dit « Heureux sont-ils ceux que l'on a persécutés dans leur cœur. Ce sont ceux-là qui ont connu le Père en vérité. Heureux les affamés, parce qu'on rassasiera le ventre de qui veut. » Ah, ça ressemble un peu, n'est-ce pas, à certaines paroles de Jésus, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes choses. Et on va voir pourquoi. Par exemple, quand vous prenez certains évangiles, on vous dit qu'il y avait deux possédés à Gadara. Et puis vous en prenez un autre parmi les quatre évangiles, puis on vous dit qu'il n'y en avait qu'un. Alors, lequel dit la vérité? Oui, il y a beaucoup de petites choses comme ça. Il faut voir ce que l'Esprit dit au travers de ces choses. Voilà le commentaire que j'en ai fait. Heureux, puisque Jésus dit « Heureux sont-ils ceux que l'on a persécutés dans leur cœur ?» Heureux signifie « en marche ». C'est un mot qui se dit à chérie et qui signifie « en marche sur une voie de rectitude hein. ».« En marche, ceux qui ont connu le Père en Jésus-Christ. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Jésus est la vérité. Tous les chrétiens ne voient pas le Père en vérité, en Jésus. Ils voient en Jésus une des trois personnes de la Trinité. » Et c'est une mauvaise compréhension de qui est Dieu. Et ça les empêche de devenir ce qu'ils sont eux-mêmes. Pour eux, tout est encore divisé. Ils ne perçoivent pas le un. Ils se sentent solidement vivants dans leur corps et ne perçoivent pas qu'ils sont un. Ils croient ce qu'ils voient et ils se voient séparés des autres, de la nature, de Dieu. Ils sont sans cesse à la recherche de la sensation de la présence de Dieu. Ils n'ont pas saisi que Dieu est en eux et eux en Dieu. Croyant dans la division, ils divisent continuellement. Ils excommunient ceux qui ne pensent pas comme eux, ils persécutent le cœur de ceux qui sont pourtant une partie d'eux-mêmes, et en faisant cela, ils se font du mal à eux-mêmes, ils souffrent par leur propre faute, mais ne s'en rendent même pas compte. Ceux qui, au contraire, se savent membres du corps de Christ, se comportent différemment d'eux. Ils aiment, ils sont en marche, en progression constante, ils ont faim de ce qui est juste, et ils sont rassasiés jour après jour, selon leurs besoins. Ce que Jésus dit là ne signifie pas que nous sommes heureux parce que nous sommes persécutés dans notre corps, dans notre cœur, dans notre centre. Cela signifie que nous sommes persécutés parce que nous sommes en marche. Rien ne dérange davantage les inertes que ceux qui avancent. Les gens solidement ancrés à leur peau ont même rationalisé l'amour et la foi. Ils sont ce que la Bible appelle des charnels. Ils ne raisonnent que par rapport à ce qu'ils peuvent expliquer. Pour eux, les Écritures sont devenues des doctrines. Si vous n'avez pas les mêmes doctrines qu'eux, ils vous rejettent. Et c'est ainsi qu'ils en arrivent même à tuer au nom de Dieu. Ils ont pour Dieu leur ventre et ne cherchent que ce qui va nourrir leur ventre, c'est-à-dire leur appétit charnel. Ils sont égoïstes, uniquement tournés vers eux-mêmes et leurs propres intérêts. Et de temps en temps, ils donnent à leur vis-à-vis pour se rassurer le cœur. Ils font une bonne œuvre, comme ça ils se tranquillisent eux-mêmes. Ceux qui sont affamés des choses saintes ont leur ventre de chair rassasié car ils cherchent premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors Dieu leur donne de quoi être satisfaits aussi bien matériellement que spirituellement. La lutte entre le bien et le mal se situe là. Les charnels persécutent les spirituels, les vrais spirituels ne persécutent personne, mais leur simple présence est ressentie comme une persécution par les charnels. Les spirituels sont une odeur de mort pour ceux qui périssent. Voilà le commentaire que je fais du Logion 69. Tout ça pour dire que quand on veut diviser Dieu en trois personnes, Dieu est un. C'est pas une question de doctrine, c'est une question de vérité. Écoute, ô Israël, il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est Dieu notre Sauveur. Il s'est fait homme. Vous comprenez? Il s'est fait homme. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair, qui est venu habiter parmi nous. Amen. Donc, quand on veut diviser Dieu en trois personnes, il y en a un ici, il y en a un là, puis un là. Alors, on est de ceux qui divisent tout pour comprendre, pour bien clarifier les choses, et en fait, on se trompe. Est-ce que Dieu est en colère? Non. Bien sûr que non, que Dieu n'est pas en colère si on se trompe. Et il ne va pas vous châtier, vous punir et vous envoyer en enfer parce que vous n'avez pas bien compris. Mais il va s'évertuer à essayer de vous faire comprendre, de vous révéler les choses petit à petit avec amour. Si seulement vous cherchez, vous allez pouvoir trouver. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez, on peut encore regarder le Logion 70, ça vous intéresse? Alors voilà, le Logion 70 nous dit, donc la parole 70, Jésus a dit, quand vous engendrerez cela en vous, ceci qui est vôtre vous sauvera. Si vous n'avez pas cela en vous, ceci qui n'est pas vôtre en vous vous tuera. Ça demande réflexion et prière. Ce sont des paroles un peu choquantes. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Eh bien, mes frères et sœurs, c'est pas pour rien que Jésus emploie le mot engendrer. Quand vous engendrez cela en vous, ce qui est vôtre vous sauvera. Engendrer vient du latin, excusez-moi la prononciation, ingenerare, de genus, qui veut dire race. Engendrer, c'est reproduire par génération, c'est être à l'origine de, c'est causer, c'est provoquer. C'est à nous d'engendrer ce qui est en nous. Ce qui est en nous, ce sont les paroles que Jésus nous a données. Si ces paroles ne sont pas vécues, elles demeurent lettres mortes en nous. Nous avons à vivre selon la race que nous sommes. Nous sommes des dieux, des fils de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Ou alors, de la postérité du serpent. Celui qui est de la race de Dieu produit un fruit qui correspond à sa race. Nous savons que ce qu'est le fruit de l'esprit, on le sait. Il ne peut venir à maturité si nous attristons le Saint-Esprit, et l'Esprit est attristé lorsque nous ne vivons pas de toutes les paroles de Dieu. Lorsqu'on se permet de faire le tri en disant, voilà, ça n'est plus pour aujourd'hui, voilà, ça c'était bon pour autrefois, mais maintenant c'est plus valable, voilà, mais il ne faut quand même pas exagérer, on n'est quand même pas des fanatiques, hein, on va continuer à vivre une petite religion pépère, on va quand même pas, hein, voilà. Il faut vivre de toutes les paroles de Dieu. Un enfant de Dieu engendre, reproduit les actions de son Père. Hein, vous rappelez quand Jésus avait dit, vous mentez parce que vous êtes sous l'inspiration de votre Père. Le diable est un menteur dès le commencement. Bien, nous, les enfants de Dieu, nous engendrons, c'est-à-dire nous reproduisons les actions de notre Père. Un enfant de Dieu, il a la science et il a la conscience du spirituel. Il a le savoir et il acquiert l'expérience. La parole ne reste pas l'être morte en lui, elle se manifeste selon sa nature divine. Jésus nous a donné beaucoup parce que nous sommes venus à lui comme des enfants, c'est-à-dire sans égaux. Nous sommes en harmonie avec lui si nous portons le fruit qui correspond à sa volonté. Nous avons en nous ce qui nous sauve, sa parole. Nous n'avons pas qu'une connaissance intellectuel de sa parole, des choses sacrées, nous manifestons ces choses et leur caractère. Cette parole devient alors vivante par nous. Jésus, il est la parole et nous devenons la parole. C'est cela, la vraie connaissance. C'est devenir ce qu'il est. Tout disciple accompli sera comme son maître. Nous devons devenir la parole vivante aujourd'hui dans un corps, manifestant les œuvres de Dieu. Dans le monde, il y a des gens qui sont très instruits, mais qui ne savent pas que faire de leurs instructions. Ils ne sont pas intelligents. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui agit avec ce qu'il sait, qui sait agir avec ce qu'il sait. De même, dans le domaine spirituel, si nous ne vivons pas ce que nous savons être la vérité, cette connaissance en nous nous perdra. La connaissance des choses de Dieu n'est pas à nous si nous n'en faisons rien dans la vie pratique. Celui qui se borne à écouter, à apprendre, mais qui ne conforme pas sa vie à ces choses, est un insensé qui se perd. La connaissance est nôtre à partir du moment où il y a cohérence entre elle et nos actes. C'est là que la connaissance sauve. La vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu ainsi, mes frères et sœurs. Vous voyez, sur ces paroles qui paraissent un peu mystérieuses, quand on prie, quand on réfléchit, quand on cherche, quand on demande le secours du Saint-Esprit, alors la lumière vient et on s'aperçoit que Jésus ne contredit absolument, enfin, du moins, l'évangile de Thomas là, ne contredit absolument pas ce que nous trouvons dans nos Bibles courantes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va rajouter l'évangile de Thomas à la Bible, mais nous sommes en République ici en France et nous avons le droit de lire, nous avons le droit d'étudier et nous avons le droit aussi de partager ce qui nous semble être bon, n'est-ce pas la vérité? Donc voilà pourquoi je me permets de le faire. Avec toutes les lettres que je reçois, je crois que tous ceux qui m'écoutent, la plupart de ceux qui m'écoutent sont des gens ouverts, des gens qui ont un cœur ouvert et qui cherchent à comprendre. Alors voilà, je suis content d'avoir partagé avec vous ces deux logions. Vous en voulez un troisième? Un petit alors, le 71. Jésus a dit: je renverserai cette maison et personne ne pourra la reconstruire. Ça, vous vous rappelez, quand Jésus l'a dit, on le sait dans nos Bibles, c'est aussi écrit. De quelle maison Jésus parle-t-il ici? Il parle du temple de Jérusalem, nous le savons parce que ces paroles nous sont rapportées par les évangiles. Mais il ne parle pas que de ce temple. Il parle également de tout ce que nous pouvons construire en voulant ignorer sa volonté. L'homme qui agit ainsi est un usurpateur, comme celui du logion 66. Ah, je vous laisse découvrir ces choses. Jésus ne peut que renverser la construction d'une telle personne. C'est pourquoi notre monde finira par être détruit. Il se construit sans Dieu. Il se construit par la manigance de l'homme et de femmes qui appartiennent à des sociétés secrètes qui manipulent les peuples. Un jour, Dieu dira: mais c'est assez. Et il détruira toutes ces tours de Babel. Ta vie est-elle construite selon les plans de Dieu ou n'en fais-tu qu'à ta tête? Construire selon les plans de Dieu revient à se conformer à sa volonté écrite dans la Bible et à se soumettre à son ordre établi dans l'Église. Ce n'est pas à toi de décider. Il y a des ministères qui sont là pour te guider, pour t'apprendre des choses et tu dois être soumis. Jésus construit sa maison, son église. Alors tu vas me dire: oui, mais mon pasteur, c'est un crétin, mon pasteur, il est charnel, et ceci et cela. Eh bien, apporte de la spiritualité, prie pour lui, soutiens-le, aide-le, Dieu l'a placé. Aide-le, ne le juge pas, ne le condamne pas. Hein? Ah, mais je ne peux pas être soumis à un imbécile. Bon, écoute, si vraiment c'est un imbécile, voilà, c'est terrible, n'est-ce pas? Mais il faut essayer de parler avec lui, de le raisonner, et puis quand même, toute l'Église n'est pas un troupeau d'imbéciles aussi qui bêlent après lui et puis toi tu es le seul qui a raison. C'est bizarre ça quand même, non? Il faut quand même réfléchir spirituellement, arrêter d'être charnel et toujours taper sur les pasteurs. Maintenant, si vraiment ton pasteur t'embête de trop, tu lui donnes mon adresse et puis j'y parlerai, on parlera ensemble. Appartiens-tu à une Église ou es-tu une part de son Église? C'est ça la bonne question. Dieu détruira toutes les religions organisées par la ruse des méchants. T'en mêle pas, c'est Dieu qui s'en occupe. Les gens qui n'appartiennent pas aux religions officielles portent sur leurs mains... Pardon, je me mélange. Les gens qui appartiennent aux religions officielles portent sur leurs mains le sang qu'elles ont versé tout au long des siècles. L'ordre que Jésus donne à ses enfants, c'est de sortir de ces églises qui se sont données un nom. Comme Babel. Celui qui ne sort pas de ses maisons sera détruit avec elle le jour où Jésus, l'agneau de Dieu, se lèvera en tant que lion qui juge. Pour le moment, il est l'agneau, mais un jour, il sera le lion qui juge. Vous voyez, ça n'est pas simple. Il faut être spirituel, il faut savoir apporter de l'amour. On ne peut pas sortir parce que voilà, le pasteur a dit une bêtise ou le pasteur a fait quelque chose qui ne vous plaît pas ou la sœur ne vous a pas dit bonjour. On ne sort pas pour ces raisons-là quand on doit sortir d'un endroit. c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Méditez ce que je viens de vous dire là. Réfléchissez à ça, mettez ça dans la prière et que Dieu vous aide, que Dieu vous dirige toujours par l'amour. C'est toujours par l'amour que Dieu dirige les choses. Quand ce n'est pas l'amour, je doute que ce soit Dieu. Je doute que ce soit Dieu. Alors soyez sérieux et que Dieu vous bénisse. Voilà, je vais terminer. J'en ai encore quelques-uns là sous les yeux, mais je vous renvoie à ces écrits que j'ai faits qui se trouvent donc sur Révélation Bible dans la série des apocryphes. Comment est-ce que vous le trouvez, notre nouveau site? C'est notre frère Eric Ruiz qui l'a tout changé. Il a passé des heures parce que pour changer chaque page, il y a plus de 5000 ou 7000 pages sur ce site. Eh bien, c'est un travail terrible. Et il y passe des heures et des heures chaque jour. Que Dieu le bénisse. Ainsi que sa famille qui, n'est-ce pas, pourrait plutôt aller en vacances et s'amuser. Et puis, ils sont là, ils restent là parce que lui, il se consacre pour le site, pour qu'il soit beau. Voilà, que Dieu le bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, que Dieu vous garde dans sa paix et vous conduise en toute sécurité dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. À bientôt. Au revoir.